Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 10 de la Sainte Sourate Balad. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما صدق الله العلي العظيم.
Non, j'en jure par cette cité. Or, c'est comme citoyen que tu es dans cette cité. Et par l'engendreur et ce qu'il engendre. Très certainement, nous avons créé l'homme en lutte. Compte-t-il que nul ne sera capable contre lui. Il dit, j'ai gaspillé beaucoup de biens. Compte-t-il que nul ne l'a vu? Ne lui avons-nous pas assigné deux yeux et une langue et deux lèvres? Et nous l'avons guidé aux deux voies.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 27 Farvardin, 1401 du calendrier iranien, 16 avril 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. L'attaque d'Israël contre la mosquée Al-Aqsa montre le désespoir des sionistes. L'attaque d'Israël contre la mosquée Al-Aqsa montre le désespoir des sionistes, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. Téhéran dénonce le projet controversé de la Grande-Bretagne d'envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda. Et Moscou frappe une nouvelle usine militaire en Ukraine et met en garde Washington. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères a fermement condamné la profanation de la mosquée Al-Aqsa par le régime israélien. Il dit que les événements qui se déroulent dans le troisième lieu saint des musulmans montrent que la résistance palestinienne est vivante et marche en avant et qu'Israël est dans un état de désespoir. Hossein Amir Abdollahian a fait ses commentaires lors d'un appel téléphonique avec Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas. Le commentaire d'aujourd'hui est consacré à ce sujet. Téhéran a dénoncé le plan annoncé par la Grande-Bretagne pour forcer les demandeurs d'asile résidant dans le pays à migrer vers le Rwanda. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que cette décision signifie que la Grande-Bretagne se dérobe à ses responsabilités et obligations internationales et renvoie la responsabilité à un pays tiers. Saïd Khatibzadeh a déclaré que cette décision violait également les droits des demandeurs d'asile stipulés dans les conventions et traités pertinents relatifs aux droits humains. La Grande-Bretagne a annoncé jeudi son intention d'envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda pour y être installés. Le gouvernement britannique affirme qu'il vise à lutter contre le trafic d'êtres humains et à réparer son système d'asile défaillant. Mais les politiciens de l'opposition et les défenseurs des droits de l'homme l'ont qualifié d'inhumain. L'Organisation des Nations Unies a également déclaré que le plan soulevait des préoccupations en matière de la défense des droits de l'homme. La Russie a bombardé samedi une nouvelle usine militaire près de Kiev, mettant à exécution sa menace d'intensifier les frappes contre la capitale ukrainienne après avoir perdu le vaisseau amiral de sa flotte de la mer Noire dans une attaque revendiquée par l'Ukraine. L'usine, qui fabrique notamment des tanks, a été visée en matinée par un bombardement. Le ministère russe de la Défense a affirmé que la frappe avait détruit des bâtiments de production d'une usine d'armement à Kiev. Déjà vendredi, une usine de la région de Kiev fabriquant les missiles anti-navires Neptune, avec lesquels les Ukrainiens disent avoir tiré sur le navire Moskva en mer Noire, avait été visée par une frappe russe. La région de la capitale était relativement épargnée par des bombardements depuis le retrait de l'armée russe de cette zone fin mars. La Russie n'a pas officiellement reconnu que le fleuron de sa flotte de la mer Noire avait été coulé par des missiles ukrainiens, comme l'a revendiqué Kiev et l'estime le Pentagone. La Russie affirme par ailleurs que ses défenses aériennes ont abattu un avion ukrainien Sukhoi 25 dans la région de Kharkov. Pendant ce temps, les forces pro-russes dans la région orientale de Lugansk déclarent que l'armée ukrainienne a bombardé à plusieurs reprises des villages frontaliers au cours des dernières 24 heures. Alors que la guerre, qui en est à son 52e jour, ne semble pas faiblir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a revendiqué son appel à l'adresse des Occidentaux pour augmenter leur aide militaire à l'Ukraine. La Russie a mis en garde les États-Unis contre des conséquences imprévisibles si Washington et ses alliés continuent d'envoyer des armes à l'Ukraine. Selon les médias américains, Moscou a envoyé des notes diplomatiques à Washington et à d'autres pays, les exhortant à mettre fin à la militarisation irresponsable de l'Ukraine. La Russie a également accusé l'OTAN de tenter de forcer Kiev à abandonner les négociations afin de faire perdurer la guerre et l'effusion de sang. L'avertissement intervient 2 jours après que le président américain a annoncé une aide militaire supplémentaire de 800 millions de dollars à l'Ukraine. Joe Biden a donné son feu vert mercredi à une nouvelle aide militaire massive à l'Ukraine avec des équipements plus lourds que ceux livrés jusqu'ici. Ces nouvelles livraisons américaines comprendront certains des équipements très efficaces que nous avons déjà livrés à l'Ukraine, mais aussi de nouvelles capacités, dont notamment des systèmes d'artillerie et des véhicules de transport de troupes blindées, a précisé l'exécutif américain. Mercredi, la Russie a averti l'OTAN qu'elle traiterait les livraisons d'armes à l'Ukraine comme des cibles légitimes. Moscou a prévenu que tout effort visant à infliger des dommages à l'armée russe serait durement réprimé. Et enfin, les réactions internationales continuent à se multiplier face aux atrocités israéliennes, y compris sa répression meurtrière contre les Palestiniens dans la ville sainte de Quds. L'Organisation de la coopération islamique, OCI, a appelé la communauté internationale à forcer Israël à mettre fin à son agression. Les Palestiniens ont qualifié l'agression d'équivalent à une déclaration de guerre. Ils ont appelé à une intervention internationale pour empêcher que la situation ne devienne incontrôlable. La Turquie, l'Irak, le Qatar et l'Arabie Saoudite ont fermement condamné les raids israéliens, affirmant que Tel Aviv doit rendre des comptes. Le mouvement Ansar Allah du Yémen a également dénoncé la profanation de la mosquée Al-Aqsa et a salué la fermeté des Palestiniens contre Israël. Les Jordaniens sont également descendus dans les rues de leur capitale Amman en solidarité avec les Palestiniens. Les manifestants se sont rassemblés près de l'ambassade d'Israël agitant des drapeaux palestiniens. Pendant ce temps, le chef de l'ONU a exprimé sa profonde inquiétude face à la situation à Qods et a exhorté les dirigeants israéliens et palestiniens à empêcher une nouvelle escalade de violence. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a dénoncé l'attaque du régime israélien contre la mosquée Al-Aqsa, affirmant que la résistance est vivante, alors que les sionistes sont désespérés. Sans aucun doute, le régime sioniste est devenu trop faible pour résister au soulèvement du peuple palestinien et à la résistance, a déclaré Hossein Amir Abdollahian lors d'un appel téléphonique vendredi avec Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas. Aujourd'hui, la résistance est dans sa position de force alors que le régime terroriste d'Israël est dans sa position la plus faible, a-t-il ajouté. Amir Abdollahian a déclaré que l'attaque israélienne contre les fidèles dans la mosquée Al-Aqsa était le résultat de la trahison par certains pays arabes et musulmans de la cause palestinienne à travers la normalisation des liens avec le régime sioniste. Plus de 150 fidèles palestiniens ont été blessés lorsque les forces israéliennes ont pris d'assaut l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa dans la vieille ville de Qods occupée. L'agence de presse palestinienne Ma'an a déclaré que les violences ont éclaté vendredi à l'aube lorsque les forces d'occupation ont fait irruption dans la mosquée, tirant au hasard des bombes assourdissantes et des balles en caoutchouc sur les fidèles. Les médias ont rapporté que les troupes israéliennes ont également attaqué des ambulanciers et des équipes de presse et les ont pourchassés dans les cours de la mosquée et ont battu un certain nombre d'entre eux. Le chef de la diplomatie iranienne a réitéré le soutien de la République islamique d'Iran à une Palestine indépendante avec Qods orientale comme capitale. Hossein Amir Abdollahian a déclaré qu'il poursuivrait les consultations diplomatiques avec ses homologues des pays musulmans pour mettre fin aux atrocités israéliennes contre les Palestiniens. Ismail Haniyeh, pour sa part, a exprimé sa gratitude pour le soutien de la République islamique d'Iran à la cause palestinienne. Il a appelé à davantage d'efforts diplomatiques de la part des pays musulmans, de l'Organisation de la coopération islamique et du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies pour arrêter les crimes d'Israël. Le ministère iranien des Affaires étrangères dénonce également les actes de violence d'Israël à Qods. Vendredi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré que le régime israélien violait de manière flagrante les principes des droits de l'homme et le droit international en commettant des crimes dans la mosquée Al-Aqsa. Il a condamné les actes de violence et honte des sionistes contre les lieux saints de Palestine et contre les personnes qui jeûnent et les fidèles à la mosquée Al-Aqsa pendant le mois de Ramadan. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a également déclaré que le régime sioniste ne changerait en aucun cas son comportement envers les Palestiniens et continuerait à commettre ses crimes. Khatibzadeh a ajouté : Nous assistons maintenant à la violence débridée de ce régime d'apartheid et raciste d'Israël. Les crimes des sionistes contre le peuple palestinien montrent la faiblesse croissante du régime d'occupation qui ne recourt aux assauts contre les fidèles que pour dissimuler son pouvoir que. Khatibzadeh a également exhorté les nations musulmanes à soutenir la mosquée Al-Aqsa. Il a appelé l'Organisation de la coopération islamique à manifester franchement son soutien à la mosquée Al-Aqsa.
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. Les tensions restent vives dans les territoires occupés palestiniens ce vendredi à l'aube. Des militaires israéliens se sont attaqués aux fidèles palestiniens sur l'esplanade des mosquées dans la Noble Route. Près de 200 Palestiniens ont été blessés et des centaines d'autres ont été arrêtés par l'armée d'occupation israélienne. En effet, depuis plusieurs semaines, les Palestiniens continuent de protester et de se soulever en effet contre l'occupation israélienne. Et cela en faisant des opérations contre les sionistes. Dans ce contexte, les différents endroits de la Cisjordanie occupée, en effet, ont été le théâtre de manifestations, de protestations et d'opérations anti-israéliennes. Et Jenin, où l'entité israélienne se voit confrontée à un défi sécuritaire qui lui reste en effet totalement inconnu, a été en quelque sorte le quartier général de ce soulèvement armé contre l'occupation israélienne. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur les tout derniers développements dans les territoires occupés palestiniens. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Peu de commentateurs politiques qui suivent depuis presque 20 jours l'extraordinaire descente aux enfers de l'entité israélienne, dont l'armée de terre, la police, la force de sécurité, ciblée par des attaques éclairs à domicile et parfaitement préméditées, se démène tant bien et mal pour éloigner l'épicentre de la guerre des rues de Tel Aviv, de Bir Sheva, de Haïfa ou encore du port gazier d'Ashkelon et le replacer à Jenin et à Khan Younes. Entre 10 et 12 avril 2022, presque un an après que les premières salves de roquettes et de missiles Ayash 250 Qassem A-120 se furent abattus contre Ashkelon, sa base militaire Zikim et surtout sa pipeline qui transite le gaz volé palestinien depuis Tamar vers Eilat, en passant par Bir Sheva, ce point ultra chaud par où a commencé le 23 mars la première des opérations commando à l'arme nouvelle anti-Israël. Ce même Ashkelon a été le théâtre de deux événements largement censurés, mais parfaitement symptomatiques de ce que Nasrallah avance. Le 10 avril, la presse sioniste a fait état du meurtre d'un colon, abattu par un officier de la brigade militaire sioniste alors qu'il courait dans sa direction pour lui arracher son M16. Face à une débâcle du renseignement sioniste, incapable de percer autant de mystères qui entourent les énigmatiques attaques commando anti-Israël de ces derniers jours, et à une résistance palestinienne qui s'est entièrement hezbollahisée et dont les actions dépassent le Shin Bet, le Mossad réunit Gantz en appelle aux Américains et aux Golfiens pour qu'ils lui portent secours. Quel constat donc tirer de ces deux incidents produits quasi simultanément à l'issue de 20 jours, totalement fou que vit Israël, assailli d'attaques menées par des armes automatiques de conception israélienne et qui se répandent du nord au sud en passant par le centre Tel Aviv où le commandant Rad a mis au pas en quelques minutes un bataillon de 1000 soldats et forces spéciales israéliens, lequel bataillon a mis 9 heures avant de lui tomber dessus, à tout hasard et à quelques 3,5 miles du lieu de l'opération. Le constat plus simple serait que cette guerre hybride, royalement postmoderne, que l'armée patriotique de la Palestine a commencée, voici peu et à l'approche du premier anniversaire de l'épée de Roth contre Israël, et qui n'implique pour la première fois ni missiles, ni drones, ni métro de gaz, et qui enlève de la sorte toute initiative de riposte à l'adversaire, en est dans sa rapide et terrifiante évolution au stade de dresser les colons contre l'armée sioniste.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Pour cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir depuis Bruxelles Luc Michel, géopoliticien, et depuis Toulouse, Monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue. Monsieur le professeur Dortiguier, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Monsieur Colabandé, bonjour à tous les auditeurs et bien sûr à notre ami Michel.
On s'y attendait peut-être, alors, le point culminant des évolutions de ces dernières semaines. Alors, les violences commises par l'entité d'occupation israélienne ce matin sur l'esplanade des mosquées, monsieur le professeur, où des centaines de Palestiniens ont été blessés, arrêtés. Alors, est-ce que cette répression violente signifie autre chose qu'une fuite en avant de la part de l'entité d'occupation israélienne qui est aujourd'hui plus que jamais dans l'impasse sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan de la politique intérieure?
Je pense qu'en effet, l'autorité israélienne est passée par ce mouvement de masse qui, comme vous l'avez fait remarquer dans la présentation, n'a rien à voir avec des lancements de missiles ou autres. Non, il s'agit là d'un mouvement populaire organisé et surtout unis, qui rassemble toutes les factions politiques. Donc ça, c'est un progrès, disons, irréversible. Les Israéliens ont l'habitude de vivre séparés des Palestiniens en les méprisant, mais ils ne comprennent pas qu'ils sont au milieu du peuple palestinien. Et ceci, ils ne le comprennent pas depuis 1949, parce qu'ils ont été eux-mêmes illusionnés par leur orgueil, illusionnés aussi par l'aide que leur apportent les sionistes de l'étranger, beaucoup plus important que ceux qui vivent en Israël, mais qui, eux, ne trempent pas leurs pieds, disons, dans le sang des Palestiniens et les font mourir de l'extérieur. Ça, c'est quelque chose de très important. Et là, les sionistes qui sont à l'intérieur d'Israël comprennent bien que leur situation est impossible à tenir, dans la mesure où ils ne se livrent pas, disons, à des concessions, au moins d'abord des concessions, et reconnaissent, disons, le caractère impossible d'un État dans l'État. On ne peut pas vivre avec des Palestiniens, contre les Palestiniens, en excluant les Palestiniens. Non, c'est une contradiction qui a déjà été soulignée lors de la naissance de l'entité sioniste en 1949. Aujourd'hui, c'est la réalité qui l'emporte sur les illusions. Et là, je dois dire que on va faire, pour reprendre la métaphore, un océan, disons, de violence contre les Israéliens. Cet océan est un océan naturel, qui n'est pas du tout le propre de quelques factions. Il s'agit là d'un soulèvement, disons le mot, national et populaire.
Merci infiniment pour ces éclairages. Restez avec nous, s'il vous plaît. On va tout de suite rejoindre à Bruxelles Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour, merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour à vous, à votre équipe et au professeur Dortiguier, et bien entendu à vos téléspectateurs. Merci. Nous assistons en fait en Palestine à l'échec d'une stratégie qui était celle de la liquidation lente et programmée de la résistance palestinienne. Vous savez que mon engagement pour la Palestine a presque un demi-siècle, je vais fêter mes 50 ans de vie engagée l'année prochaine. J'ai connu l'époque flamboyante de la résistance palestinienne. C'était l'époque du FPLP. On voyait des foules considérables à Bruxelles, à Paris, à Londres, à Berlin, réunies pour soutenir les Palestiniens. et on voyait une résistance qui combattait militairement avec l'aide de la Syrie, c'était celle d'Hafez al-Assad à l'époque, le père de Bachar et des Soviétiques, on la voyait combattre. Et puis petit à petit, on a vu le soutien se réduire. Il y a eu cette ignoble assimilation de l'antisionisme à l'antisémitisme qui était une arme psychologique en Occident. Et il y a eu la division de la résistance. Mais depuis 2 ans, on assiste de nouveau à l'émergence. Il y a des foules considérables en Occident qui se sont manifestées à l'occasion de la dernière guerre entre les Israéliens et les Palestiniens. Il y a surtout la résistance palestinienne qui est renaît en Cisjordanie même, où on pensait l'étouffer, la grignoter à coups de colonies, fantoches, etc. Le grand plan des sionistes, n'oublions pas que ce sont les sionistes les plus radicaux qui sont au pouvoir en Israël, c'est-à-dire les héritiers du fascisme sioniste de Jabotinsky, les partisans des murailles d'acier d'Israël et du grand Israël, du Nil à l'Euphrate, ces gens-là, soutenus par leurs complices américains, les républicains à la Donald Trump et les gens de l'AIPAC, ces gens, leur mauvais coup, leur lent étouffant de la résistance palestinienne a trouvé son échec. C'est ce qui se passe maintenant. On n'est plus seulement dans une révolution des pieds, on est une révolution qui est capable de s'opposer militairement. Et je soulignerai le rôle, pour conclure, de l'Iran. C'est l'inclusion de la résistance palestinienne dans l'axe de la résistance dont l'Iran est le cœur et l'âme qui a permis cela, cette renaissance de la Palestine.
Merci pour ces précisions, M. Michel, restez avec nous. M. d'Ortiguier, donc avec ce soulèvement généralisé du peuple palestinien, avec cet échec, comme disait M. Michel, de stratégie de liquidation de la résistance, avec ces opérations, cette guerre hybride, en effet, des différentes factions de la résistance contre l'occupation. Est-ce qu'il faudrait s'attendre à une confrontation d'envergure, une confrontation à grande échelle, avec des conséquences, non seulement sur le conflit israélo-palestinien, mais aussi sur toute la région?
Je pense aussi que, comme vous, que cette confrontation va s'étendre. Elle n'est pas du tout limitée, elle n'est pas locale. Elle est réellement une réaction d'ensemble de la région. Je crois que tous les pays arabes jusqu'à présent ont, et non arabes, tous les pays chrétiens et musulmans, ont, manifesté leur sympathie envers le peuple palestinien, leur aide. Mais là, il s'agit non pas d'une aide seulement, il s'agit d'une identification des combats qui durent en Syrie, au Liban, et avec justement le peuple palestinien. Cette osmose, si je puis dire, pour reprendre une image physique, cette identification, voyez-vous, est justement le point nouveau. Elle avait été annoncée par des géographes, autrefois par des historiens, des géographes, des gens qui sont, disons, des ethnologues, qui connaissent la région. Disons, le temps semblait, disons, écarter cette perspective. On parlait toujours des différences de régime, des différences entre le Hamas l'OLP, par exemple. On disait le temps du PLP, comme disait M. Michel, est un temps qui passait, etc. Nous assistons à des, bien sûr, à des luttes, en même temps à des trafics d'influence, tout ça. Or, ceci est faux. C'est le peuple lui-même, comme force, disons, qui intervient aujourd'hui. Et cette volonté populaire, elle est évidemment, est un défi à la mort. Et ceci fait très peur aux Palestiniens, aux Israéliens, qui ne sont pas habitués à cela. Ils sont habitués à être soutenus, ils sont habitués, disons, à des combats particuliers, voyez-vous. Ils sont habitués à des opérations de destruction, mais pas du tout à affronter l'ensemble d'un peuple. Ceci a été annoncé pourtant dès 1949, et qui est d'ailleurs présent dès avant la guerre de 40, et la dernière guerre mondiale. Il y avait des insurrections en Palestine, il y avait des meurtres en Palestine commis par les islamistes et les britanniques, par exemple. Or, ceci dans ce qui relève de la même essence, de la même nature. C'est un combat très ancien. Il ne faut jamais l'oublier, surtout nos jeunes auditeurs. Ils doivent savoir que ces combats ont commencé dans les années 1920, voyez-vous, et sont continus. D'ailleurs, j'imagine qu'il s'agit d'un combat fait par mon grand-père, arrière-grand-père, etc. Voyez-vous, tout ceci est une continuité dans le temps. Et aujourd'hui, cette continuité dans le temps, elle se manifeste par une solidarité dans l'espace.
Merci encore, monsieur le professeur. Monsieur Michel, pour de nombreux observateurs et analystes, ce qui se passe aujourd'hui, notamment en Cisjordanie occupée, c'est-à-dire la recrudescence des opérations anti-israéliennes et la conséquence logique et inévitable, en effet, de la persistance de l'occupation et des violences israéliennes dans cette zone palestinienne. Ceci étant dit, à quel scénario faudrait-il s'attendre? Est-ce que la confrontation va s'étendre? Est-ce qu'il faudrait en effet assister à une concertation, à une coordination de plus en plus étroite entre les différents fronts de la résistance, notamment palestinienne, contre l'occupation israélienne, et une résistance armée à l'instar de ce qui s'est passé l'année dernière avec notamment en effet le tir de missiles contre une occupation qui est aujourd'hui arrivée à cette conclusion que justement la résistance palestinienne est bien déterminée, bien capable à riposter aux crimes israéliens.
Écoutez, moi je crois qu'on va vers une...
Allô?
Allô?
Monsieur Michel, est-ce que vous nous entendez?
Dès lors, ce qui s'est passé, l'injustice fait à un peuple qui n'a jamais été toléré, y compris par les nouvelles générations, va s'étendre. D'autant plus que la stratégie de l'axe de la résistance, elle s'étend sur tout le Proche-Orient.
Merci encore, Monsieur Michel. Monsieur d'Ortiguier, ces évolutions interviennent justement, qui sont d'ailleurs sans précédent depuis le début du mois de Ramadan, donc le dernier vendredi, comme vous le savez, le dernier vendredi du mois de Ramadan, la journée internationale de Quds. Quel sera l'impact de ces évolutions sur la prise de conscience de l'opinion publique internationale à l'égard du peuple palestinien et de l'oppression dont il est victime et qui, malheureusement, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, est totalement passé inaperçu et soumise à un blackout total de la part des milieux politiques et médiatiques internationaux.
Il ne s'agit pas de répercuter par des manifestations, des déclarations, ce qui se passe en Orient. Mais je crois que les États, c'est très important, en Europe, tout au moins en particulier l'Allemagne aujourd'hui, qui reprend son indépendance sur le plan politique, tireront des conséquences de cette insurrection continue. Vous savez, ce qui se passe en Palestine n'est pas ignoré en Europe, ni par l'opinion, ni par les gouvernements. Mais nous avons, des groupes de pression qui essaient vraiment de nous séparer ou de neutraliser, l'aide ou la compréhension, nous pouvons avoir du problème palestinien. Il faut donc, des réalités fortes. Ce qui se passe en Ukraine est une sorte de marche vers un conflit beaucoup plus généralisé, et les gens sont par là même sensibles à ce qui se passe, voyez-vous. Je crois que cette conjonction des deux événements n'est pas du tout exclusive. Je veux dire, cette conjonction ne peut que faire prendre conscience aux gens des liens qu'il y a dans le désordre mondial. L'affaire palestinienne est une affaire d'injustice, voyez-vous. Et donc, les gens comprennent bien que l'opinion publique et les cadres des États, à commencer par les États-Unis aujourd'hui, qui ont abandonné, à mon avis, en grande partie, politique insensée de M. Trump. Et je crois qu'ils lâcheront, ou s'éloigneront de, ils appellent du sionisme, à se maintenir. Je crois même que ceci ira si loin, je conclurai là-dessus, que de grandes parties de ceux dans le mouvement sioniste international qui se réclament d'Israël lâcheront Israël. Parce que ce qui leur importe à eux, ce sont, comme on dit, les bénéfices, mais non pas les sacrifices.
Merci encore, Monsieur le professeur d'Ortiguier. Une toute dernière question à Monsieur Michel. Monsieur Michel, alors, je vous pose la même question, d'une autre manière peut-être, c'est-à-dire, alors, cette conjonction de l'affaire palestinienne et de la crise ukrainienne, et bien entendu, la révélation au grand jour de l'hypocrisie occidentale, notamment en matière des droits de l'homme. Quel constat tirez-vous justement, si vous établissez un parallèle entre ces deux affaires, notamment en matière des droits de l'homme?
Il y a surtout des conséquences géopolitiques au-delà de l'hypocrisie occidentale et des doubles langages. Le but de Vladimir Poutine, c'est pas de régler un problème régional avec l'Ukraine. C'est de l'aveu même de tous les analystes occidentaux, c'est de dynamiter le nouvel ordre mondial qui était imposé au monde entier à la fin de l'Union soviétique en 1990. Cette conséquence de cela, ils sont immenses pour le Proche-Orient. Tout d'abord, il y a le fait que les pays qui étaient traditionnellement alliés des États-Unis, les Émiratis, les Qataris et les Saoudiens, ils sont engagés aujourd'hui dans une guerre économique qu'on appelle la guerre du gaz. Et dans cette guerre, ces puissances sont du côté du bloc de l'Est, ils sont du côté de la Russie et de l'Iran et pas du côté des Américains. Ça a des conséquences importantes. Le plan américain de Donald Trump, qui était fait avec l'aile radicale des sionistes, qui était d'associer les pétroles arabes à la liquidation de la résistance palestinienne, évidemment, il est aujourd'hui obsolète. Les monarchies arabes, on l'a vu au sommet de Doha, des États producteurs de gaz, il y a un mois, ils ont refusé de s'engager. Et au contraire, ils ont choisi une neutralité bienveillante vis-à-vis de la Russie, mais aussi de facto de l'Iran. C'est cela qu'il faut constater. Donc les conséquences de la crise ukrainienne vont avoir des conséquences directes sur le Proche-Orient.
Merci encore. Monsieur le professeur d'Ortiguier, il nous reste 2 minutes justement. Alors, justement, sur les conséquences, les conséquences de la crise ukrainienne sur le Proche-Orient, notamment sur l'affaire palestinienne.
Eh bien, en deux mots, disons, les difficultés que la Russie a rencontrées avec l'Occident et qu'elle a rencontrées, disons, dans son propre sein, dans sa sphère d'influence, brise pour toujours cet accord de 1947, je dis bien de 47, pas de 48, qui a fait que ce fut autrefois la Russie soviétique avec Andrei Gromyko qui a proposé la création de l'entité sioniste. Et alors ceci justement est brisé. Et c'est justement cette brisure qui est une victoire de la justice sur l'idéologie ou les illusions idéologiques. Voyez-vous, cette période 47-48 est définitivement brisée, car elle était fondée sur un faux accord, ou disons, une sorte de coopération entre les deux grandes puissances qui sortaient de la guerre. Cette période d'après-guerre, à notre avis, est terminée aujourd'hui. Voyez-vous, cela se manifestera dans l'évolution de nombreux États. Je l'ai dit d'ailleurs tout à l'instant, à l'intérieur même de l'Europe. Oui, je crois que nous assistons à une nouvelle, pas une nouvelle ère, à la destruction de ce qui a été artificiel, à la destruction d'un mensonge qui a été le mensonge, disons, depuis la fin du traité de Versailles, depuis 1919, bien sûr, de l'époque de l'écrasement de Balfour en 17, bien sûr, ça on le sait, mais surtout de l'après-guerre. Ce crime de l'après-guerre va être effacé par la volonté et aussi l'unité du peuple palestinien et de ceux qui sont autour de lui, car ce sont des gens qui sont, des peuples qui sont autour de lui en Orient, qui se considèrent justement, qui sont victimes de la même injustice. Et cela est comme une tempête, voyez-vous, que rien n'arrêtera. Et l'affaire ukrainienne, comme vous l'avez dit, M. Contabondé, est une affaire qui, précisément, est un craquement de l'ordre mondial, de la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Merci.
Et ce craquement, il se manifeste aussi en Orient.
Monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue, Luc Michel, géopoliticien, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu apporter ces éclairages à cette émission. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à demain.
À tous, bienvenue dans cette émission Focus. La République islamique d'Iran souhaite un Irak fort, digne et uni. C'est ce qu'a déclaré le président iranien Ebrahim Raisi lors d'une rencontre à Téhéran avec le ministre irakien des Affaires étrangères Fouad Hussein. Nous espérons revoir une ouverture politique basée sur la volonté et les intérêts du peuple irakien avec la coopération et l'empathie de tous les principaux courants politiques en Irak, a souligné le président Raisi. Il a déclaré lors de cette rencontre avec le chef de la diplomatie irakienne, tout en faisant référence aux affinités communes religieuses, historiques et culturelles qui relient les deux nations iraniennes et irakiennes, que les relations entre les deux pays vont au-delà de simples rapports de bon voisinage. Et la République islamique d'Iran est favorable au développement de ses relations fraternelles. Téhéran et Bagdad ont une sécurité et des intérêts communs, a-t-il déclaré avant d'ajouter. La sécurité et les intérêts de Téhéran et de Bagdad sont étroitement liés. Les ennemis ne pourront jamais perturber ces liens. La République islamique d'Iran a été toujours pour l'unité de la sauvegarde de l'intégrité territoriale et l'unité de toutes les ethnies et religions en Irak, des facteurs qui sont la base du maintien de la stabilité, le soutien, a fait savoir le président Raisi. Le président iranien a poursuivi en soulignant que Téhéran attend sérieusement des pays voisins, en particulier de l'Irak, et qu'il n'autorise aucune présence perturbatrice qui représente une menace pour la République islamique d'Iran, que ce soit dans les zones contrôlées par le gouvernement fédéral ou dans les zones gérées par la région autonome du Kurdistan. La République islamique d'Iran a prouvé sa fraternité à ses voisins dans la pratique, a été un ami de l'ère de la guerre et pas seulement un ami de l'ère de la paix. Et nous attendons donc des pays voisins qu'ils soient conscients des conspirations des ennemis. Soulignant que le groupe terroriste de Daesh a été créé par les États-Unis et Israël et agit aujourd'hui sous forme d'une guerre par procuration en Afghanistan, Raisi a déclaré que la République islamique d'Iran a prouvé son amitié avec les pays voisins dans la pratique et a accueilli des réfugiés des Afghans pendant des décennies. Il a également cité certains chefs d'État disant que l'Iran est venu en aide à ces pays alors que d'autres les avaient abandonnés, avant de souligner que la sécurité de l'Irak doit être assurée par les Irakiens eux-mêmes et que la présence d'étrangers en Irak n'assure pas la sécurité. Le président Raisi a également appelé à une mise en œuvre plus rapide du chemin de fer Shalamcheh-Bassora, ainsi qu'à faciliter le déplacement digne des pèlerins iraniens, décrivant les deux plans comme conformes aux intérêts économiques et sociaux des deux pays. Lors de cette rencontre, le ministre irakien des Affaires étrangères Fouad Hussein a souligné l'engagement de l'Irak à renforcer le niveau de coopération et de coordination coordination entre les deux pays dans divers domaines bilatéraux, régionaux et internationaux. Le ministre irakien des Affaires étrangères a ajouté « L'Irak ne sera jamais un endroit pour agir contre la sécurité de l'Iran. Nous sommes prêts à une coopération étendue, y compris dans le domaine de la sécurité, pour prévenir toute menace aux intérêts de la République islamique d'Iran », a-t-il assuré. Téhéran rejette les allégations de l'administration américaine. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a fermement rejeté les allégations hypocrites de l'administration américaine dans son dernier rapport sur la situation des droits de l'homme en Iran, affirmant que Washington vise à atteindre ses objectifs politiques illégitimes en diffusant de telles accusations. Khatibzadeh, réagissant au rapport annuel du département d'État américain sur les pratiques en matière de droits de l'homme, a affirmé que la publication de rapports répétitifs et sans fondement ne donnerait aucune légitimité à de tels rapports. Le gouvernement américain, avec une histoire pleine de guerres, de coups d'État, d'agressions, d'assassinats, d'enlèvements, de blocus économiques et de meurtres d'innocents dans le monde, a été le principal violateur des droits de l'homme et a par conséquent, il n'est en aucun cas qualifié pour parler de concepts aussi sublimes que les droits de l'homme, a souligné encore Khatibzadeh. Les États-Unis versent des larmes de crocodile pour la nation iranienne, alors que les crimes contre le pays vivront à jamais dans l'esprit du peuple iranien, a-t-il souligné encore. Vladimir Poutine veut réorienter les exportations énergétiques russes de l'Europe vers l'Asie. Vladimir Poutine a appelé, c'était ce jeudi 14 avril, à réorienter les exportations énergétiques russes de l'Europe vers l'Asie du fait des sanctions imposées contre Moscou après son offensive en Ukraine, accusant les Européens de déstabiliser le marché en voulant se passer d'hydrocarbures russes. On va partir du principe qu'à l'avenir, les livraisons vers l'Ouest vont baisser, a dit le président russe lors d'une réunion gouvernementale consacrée au secteur de l'énergie dans le contexte des sanctions internationales. Il faut donc réorienter nos exportations vers les marchés au Sud et à l'Est qui croissent rapidement, a-t-il ajouté. Les pays européens parlent constamment de se passer des approvisionnements russes et en faisant cela, ils déstabilisent le marché et font monter les prix, a accusé le président russe Vladimir Poutine. Les tentatives des pays occidentaux d'évincer les fournisseurs russes, de remplacer nos ressources énergétiques par des approvisionnements alternatifs affecteront inévitablement l'ensemble de l'économie mondiale, a mis en garde Vladimir Poutine, assurant que les conséquences d'une telle démarche peuvent devenir très douloureuses, et d'abord pour les initiateurs de telles politiques. Cet appel du président russe a développé de nouveaux débouchés pour les énergies fossiles russes. Un virage vers l'Asie, entamé il y a plusieurs années, survient alors que les Européens envisagent d'élargir leurs sanctions contre les hydrocarbures de Moscou en réaction à son intervention militaire en Ukraine. Vladimir Poutine n'a pas précisé à quel pays il pensait, mais la Chine, dont l'appétit en hydrocarbures ne cesse de grandir, et frontalière de la Russie. Pékin est cependant réputé comme un négociateur difficile et la Russie cherche à voir au-delà de ce voisin. Un embargo éventuel sur le gaz russe fait l'objet d'après-discussions entre les États membres de l'Union européenne, l'Allemagne étant l'un des principaux opposants à un arrêt immédiat de ses importations, dont elle est très dépendante. Moscou sanctionne 398 parlementaires américains par mesure de représailles. La Russie a annoncé que de 398 membres du Congrès des États-Unis seront interdits d'entrer sur son territoire en représailles à une mesure similaire prise par Washington suite à l'opération militaire russe en Ukraine. En réaction à une nouvelle vague de sanctions anti-russes prises le 24 mars par l'administration Biden contre 328 députés de la Douma, des mesures punitives réciproques sont prises contre 398 membres de la Chambre des représentants du Congrès des États-Unis, a indiqué la diplomatie russe dans un communiqué. Dans ce communiqué, Moscou a publié les noms de ses parlementaires américains désormais interdits en Russie de façon permanente. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, notre émission Focus s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la Radio Francophonie. Thank you.